Socrate, me dit-il, je te dirai ce que j'en pense. Nous nous réunissons souvent à un certain nombre de gens du même âge, selon l'ancien proverbe. La plupart, dans ces réunions, s'épuisent en plaintes et en regrets amers, au souvenir des plaisirs de la jeunesse, de l'amour, des festins, et de tous les autres agréments de ce genre. À les entendre, ils ont perdu les plus grands biens. Ils jouissaient alors de la vie. Maintenant, ils ne vivent plus. Quelques-uns se plaignent aussi que la vieillesse les expose à des outrages de la part de leurs proches. Enfin, ils l'accusent d'être pour eux la cause de 1000 maux. Pour moi, Socrate, je crois qu'ils ne connaissent pas la vraie cause de ces maux. Car si c'était la vieillesse, elle produirait les mêmes effets sur moi et sur tous ceux qui arrivent à mon âge. Or, j'ai trouvé les vieillards dans une disposition d'esprit bien différente. Je me souviens qu'étant un jour avec le poète Sophocle, quelqu'un lui dit en ma présence « Sophocle, l'âge te permet-il encore de te livrer au plaisir de l'amour ?»« Tais-toi, mon cher, » répondit-il. « J'ai quitté l'amour avec joie, comme on quitte un maître furieux et intraitable. » Je jugeai dès lors qu'il avait raison de parler de la sorte, et le temps ne m'a pas fait changer de sentiment. En effet, la vieillesse est, à l'égard des sens, dans un état parfait de calme et de liberté. Dès que l'ardeur des passions s'est amortie, on se trouve, comme Sophocle, délivré d'une foule de tyrans insensés. Pour cela, comme pour les chagrins domestiques, ce n'est pas la vieillesse qu'il faut accuser, Socrate, mais seulement le caractère des vieillards. La modération et la douceur rendent la vieillesse supportable. Les défauts contraires font le tourment du vieillard, comme il ferait celui du jeune homme. Charmé de sa réponse, et désirant le faire parler davantage, lui dit « Céphale, lorsque tu parles de la sorte, la plupart, j'imagine, ne goûtent pas tes raisons, et ils trouvent que tu dois moins à ton caractère qu'à ta grande fortune de porter si légèrement le poids de la vieillesse, car, disent-ils, la richesse a bien des consolations. » « Oui, dit Céphale, ils ne m'écoutent pas, et s'ils n'ont pas tout à fait tort, ils ont beaucoup moins raison qu'ils ne le pensent. » Thémistocle, insulté par un homme de Sériphe, qui lui reprochait de devoir sa réputation à sa patrie et nullement à son mérite, lui répondit « Il est vrai que si j'étais de Sériphe, je ne serais pas connu. Mais toi, tu ne le serais pas davantage si tu étais d'Athènes. » On pourrait dire avec autant de raison au vieillard peu riche et chagrin que la pauvreté peut rendre la vieillesse pénible au sage même, mais que sans la sagesse, jamais la fortune ne la rendrait plus douce. Céphale, repris-je, as-tu hérité de tes ancêtres la plus grande partie de tes biens ou l'as-tu amassé toi-même? Ce que j'ai amassé moi-même, Socrate, je tiens en ceci le milieu entre mon aïeul et mon père. Mon aïeul, dont je porte le nom, avait hérité d'un patrimoine à peu près égal à celui que je possède, et l'accru considérablement. Et mon père, Lysignas, m'a laissé moins de biens que tu ne m'envoies. Pour moi, il me suffit de transmettre à mes enfants que voici la fortune de mon père, sans l'avoir diminuée, ni sans l'avoir beaucoup augmentée. Si je t'ai fait cette question, lui dis-je, c'est que tu m'as paru fort peu attaché à la richesse, ce qui est ordinaire à ceux qui ne sont pas les artisans de leur fortune. Au lieu que ceux qui la doivent à leur industrie y sont doublement attachés. Ils l'aiment d'abord parce qu'elle est leur ouvrage, comme les poètes aiment leurs vers et les pères leurs enfants. Et ils l'aiment encore, comme tous les autres hommes, pour l'utilité qu'ils en retirent. Aussi sont-ils d'un commerce difficile et n'ayant d'estime que pour l'argent.
Cela est vrai, dit-il.
Très vrai, ajoutai-je. Mais dis-nous encore ce qui donne, à ton avis, le plus de prix à la richesse.
Ce que j'ai à dire, répondit Céphale, ne persuaderait peut-être pas beaucoup de personnes.
Tu sauras, Socrate, que lorsqu'un homme se croit aux approches de la mort, certaines choses sur lesquelles il était tranquille auparavant éveillent alors dans son esprit des soucis et des alarmes. Ce qu'on raconte des enfers et des châtiments qui y sont préparés à l'injustice, ces récits, autrefois l'objet de ses railleries, portent maintenant le trouble dans son âme. Il craint qu'il ne soit véritable. Affaibli par l'âge, ou plus près de ces lieux formidables, il semble les mieux apercevoir. Il est donc plein de défiance et de frayeur. Il se demande compte de sa conduite passée. Il recherche le mal qu'il a pu faire. Celui qui, en examinant sa vie, la trouve pleine d'injustice, se réveille souvent, pendant la nuit, agité de terreur subite comme les enfants. Il tremble et vit dans une affreuse attente. Mais celui qui n'a rien à se reprocher a sans cesse auprès de lui une douce espérance qui sert de nourrice à sa vieillesse, comme dit Pindare. Car telle est, Socrate, l'image gracieuse sous laquelle ce poète nous représente, d'une manière on ne peut pas plus admirable, l'homme qui a mené une vie juste et sainte. L'espérance l'accompagne, berçant doucement son cœur et allaitant sa vieillesse, l'espérance qui gouverne à son gré l'esprit flottant des mortels.
C'est parce qu'elle prépare cet avenir que la richesse est à mes yeux d'un si grand prix, non pour tout le monde, mais seulement pour le sage. C'est à la richesse qu'on doit en grande partie de n'être pas réduit à tromper ou à mentir, et de pouvoir, en payant ses dettes et en accomplissant les sacrifices, sortir sans crainte de ce monde, quitte envers les dieux et envers les hommes. La richesse a encore bien d'autres avantages, mais celui-là ne serait pas le dernier que je ferais valoir pour montrer combien elle est utile à l'homme sensé.